Le Seigneur a tellement parlé par les frères. Et si j'ajoute quoi que ce soit, il n'y a rien à rajouter. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? La parole de Dieu elle-même suffit. Ça suffit vraiment. Les saints ont mentionné Samuel ce matin. Qu'est-ce qui vous impressionne avec Samuel? Il était le plus jeune qui a été amené à servir dans la maison de Dieu. Et qui lui a enseigné? Dieu lui a parlé. N'est-ce pas? Samuel? Samuel? Emmanuel? Et Samuel pensait que c'était Élie. Parce qu'il est sorti de son lit et il a libéré Élie. Combien de fois? Trois fois. Finalement, Élie lui a dit quoi? Il lui a dit comment réagir, comment répondre. C'était Dieu qui lui parlait. Ne pensez jamais que vous êtes trop jeune pour entendre la voix du Seigneur. Apprenez à entendre la voix du Seigneur, même si vous êtes jeune. C'est probablement le meilleur moment pour que Dieu te parle. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Je peux en témoigner. Si je suis passée par ce chemin jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un m'a appelée ou parce qu'une organisation m'a engagée. C'est le Seigneur qui m'a parlé. Nous devons tous apprendre à avoir une oreille ouverte pour entendre la parole du Seigneur. Notre Dieu est un Dieu qui parle. C'est pourquoi il parle en toi. Est-ce que ce n'est pas bizarre? S'il vit en toi qu'il ne te parle pas, la Bible dit que l'onction qui habite en toi, qu'est-ce qu'il a dit? Elle va t'enseigner. Mais comment elle va t'enseigner si elle ne te parle pas? Comment est-ce que tu enseignes tes enfants si tu ne leur parles pas? Tu leur regardes seulement? Combien de fois est-ce que tu parles à tes enfants? Très souvent. Qu'en est-il du Père Céleste? Combien de fois est-ce qu'il te parle? Qu'en est-il du Seigneur qui habite en toi? Qu'en est-il de l'onction? Le Seigneur nous a donné le meilleur enseignement. Et pourtant, on l'a renié et on a écouté les hommes. Que le Seigneur nous garde de le remplacer par des paroles de frères et sœurs. J'ai vu cela. Il n'écoutait que les paroles des hommes, même si le Seigneur n'était pas là. Non, 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 pardon. Même si le frère n'était plus là, mais ses frères restaient. Ce frère est resté par ses livres. Il y a quelques années, à Los Angeles, un journaliste est allé à un certain endroit où on était il y a un certain temps. Et il a interviewé quelqu'un. Je n'ai pas besoin de vous dire les noms. Dit, vous respectez tellement cet homme, mais il n'est plus là. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Et la personne a répondu, oui, mais son esprit est avec nous. J'ai dit, oh là là, je suis presque évanouie. L'esprit est encore avec vous? Est-ce que c'est scripturaire? Non. Il n'y a qu'une fois où c'est arrivé. C'est quand cette femme, cette sorcière, Saül est allé vers elle. Elle lui a demandé de faire ressortir Samuel d'entre les morts du Sheol. Et à sa surprise, c'est vraiment l'esprit de Samuel qui est sorti. Mais ce n'est qu'une seule fois, quelques secondes qu'il est sorti. Peut-être moins d'une minute. Et il a dit, pourquoi est-ce que tu m'as dérangé de mon repos? Cette femme a été si effrayée parce que c'était en général que des démons qui sortaient. Et elle est partie en courant. Mais Dieu a utilisé cette seule fois pour que Samuel reprenne Saül et prononce son jugement. Et puis il est reparti. Comment est-ce que c'est possible? Et c'était tout dans le journal, ça a été reporté. La réponse suivante, c'était oui, bien si qu'il soit plus là, nous avons ses livres. Est-ce qu'on est comme ça? Non, ne soyez pas ainsi. Ne soyez pas comme cela. Et je veux nous encourager tous, inclus moi, d'aimer la parole vivante. La parole de Dieu est vivante. C'est surprenant. Ça peut être du lait pour les jeunes. Ça peut être de la nourriture solide pour les plus vieux. Et parce qu'elle est vivante, c'est l'esprit. Elle connaît tes besoins et ta situation. Dans ce cas précis, peu importe où tu es, elle va pourvoir à tes besoins. Tu n'as pas besoin d'écouter tant de messages, mais tu dois venir à la parole vivante. Elle est vivante. Le Seigneur dit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dans chaque situation où tu te trouves, la parole va te parler de manière à t'approvisionner. Apprenez à venir à la parole. Bien sûr, on a là besoin de la communion les uns avec les autres. De temps en temps, une conférence, on se réjouit. Pas seulement la conférence, mais je me réjouis que tu sois là. C'est pourquoi j'ai dit, on est venu ici, pas pour la conférence, mais pour voir les frères et sœurs. Et pour la riche communion merveilleuse. Et on apprécie vraiment aussi les jeunes frères et sœurs. Mais la chose principale, c'est écouter le Seigneur. Vous n'êtes pas trop jeune pour écouter le Seigneur. Si Samuel, si jeune, il était juste sevré. Si lui pouvait entendre la voix du Seigneur. Tu dois aussi dire au Seigneur, tu as parlé à Samuel. Pourquoi pas à moi? Amen. Même les parents aiment parler à leurs enfants. Même ils apprennent à parler au bébé. Vraiment merveilleux. Et une chose dans la Bible qui m'a impressionnée beaucoup, c'est que le Seigneur dit, n'arrêtez pas les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Les disciples pensaient que les enfants allaient déranger le Seigneur et voulaient les faire partir. Allez jouer par là-bas. Allez à la réunion des enfants. Pourquoi les envoyer à la réunion d'enfants? Est-ce que tu veux juste rester en bas, Daya? Ici ou en bas vers les enfants? Ici. C'est un bon choix. Le Seigneur a dit, laissez-les venir à moi. Ne les empêchez pas de venir à moi. Et le Seigneur les a bénis. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Le Seigneur nous a donné un exemple si merveilleux. Si nous lisons la Bible, la Bible a tous les exemples dont nous avons besoin. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout est dans la Bible. C'est pourquoi, souvent, je pense, qu'est-ce que je peux dire de plus? La Bible dit tout. Le Seigneur nous a donné 10 commandements, mais on a des milliers de livres. Est-ce que nos milliers de livres peuvent remplacer les 10 commandements? Apprenez à chérir ce livre et apprenez à l'écouter. Écoutez-le. Notre Dieu est un Dieu qui parle tous les jours. Écoute le Seigneur. Bien que le Seigneur ait donné 10 commandements, est-ce qu'ils les ont accomplis? Notre frère ce matin, où est Léo? Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné une nouvelle alliance? Pourquoi, Moses? Parce qu'on n'était pas capable d'observer les commandements, la loi. Ainsi, même 10 commandements, tu ne peux pas les accomplir. Vous vous souvenez ce que Mouchang a dit dans une conférence? Dieu a donné à Adam combien de commandements? Un. Un seul. Est-ce qu'ils ont pu l'observer? Même pas un seul commandement. Alors, quelle est la solution de Dieu? Maintenant, il les écrit dans ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est écrit dans ton cœur? Qu'est-ce que ça veut dire s'il entre dans ton cœur? Ça veut dire que ça devient une partie de ton être. Ça devient ta nature, qui est Christ en tant que vie en nous. C'est ça que ça veut dire que c'est écrit dans mon cœur. Et pas seulement écrit dans mon cœur, mais même celui qui a pu accomplir chacun de ses commandements, il habite dans ton cœur et dans mon cœur. Alors de quoi as-tu besoin encore? Tu dois juste croître, gagner Christ. C'est pas pour rien que Paul a dit, je veux le connaître. C'est pas de connaître les 10 commandements, mais c'est de le connaître lui. Et c'est déjà écrit là. Et le Seigneur nous a donné sa propre vie et lui-même. On doit l'expérimenter, on doit croître. C'est pourquoi même un enfant a toute la capacité d'un adulte, mais cela doit croître dans tes sentiments, dans ton intelligence. Mais si tu ne crois pas, ça veut dire que tu ne développes pas cela. Ainsi, aujourd'hui, c'est la nouvelle alliance. J'écrirai mes lois dans leur cœur et je les écrirai sur leur intelligence. Mais si tu ne viens pas à la parole vivante, parce que cette parole correspond à ce qui est écrit dans ton cœur, ce n'est pas juste la lettre. C'est aussi l'esprit en nous, le Seigneur en nous. Tu dis, oui, si le Seigneur vit en moi, alors je n'ai pas besoin de la Bible. Oublie mon iPad. Non. On est toujours des êtres humains. En tant qu'êtres humains, nous avons encore besoin de la parole vivante, la parole écrite. Mais la parole écrite correspond à la parole écrite dans ton cœur. Et l'esprit, là, va t'aider, va t'enseigner. Ainsi, viens à la parole. Pas seulement à des messages. Je suis désolée. Pour beaucoup de saints que j'ai connus, à la place de lire la Bible, ils lisent des livres. Ils étudient la vie. Peut-être que si tu fais des études de biologie, tu seras si vivant. Non. Que le Seigneur nous soit miséricordieux. Que l'onction nous enseigne. Le Seigneur nous a pas seulement donné tellement de choses, mais il nous a donné le meilleur enseignant. L'onction t'enseigne toutes choses. Et même dans la Nouvelle Alliance, il est dit que tu n'as besoin de personne pour t'enseigner. Est-ce que tu crois cela? Non. Je ne crois pas que tu y crois. C'est pourquoi tu viens à la conférence. C'est bien la communion. C'est un échange. C'est pourquoi je me suis réjouie de tous les frères et sœurs qui partagent. Pas une enseigne. Tu ne partages pas des enseignements de la Bible parce que tu deviens un enseignant à ce moment-là, mais tu nous partages la réalité de Christ. Sinon, tu seras un enseignant. La communion, c'est de participer. C'est ce que le mot veut dire, communion. Tu veux pas manger tout seul, n'est-ce pas? Quand on vient ici, on a de la communion à cette table dehors, non, en dehors de la salle. Imagine que tu es tout seul. Une fête, c'est une communion et on participe tous à cette bonne et merveilleuse nourriture. Ça, c'est la communion. La communion, ça veut dire qu'on participe. On participe à quoi? À la doctrine? La doctrine n'est pas comestible. Si tu vas dans un restaurant, est-ce que tu manges le menu? Est-ce que ça suffit? Et ils vont te demander 20 dollars pour le menu. Et puis tu dois même laisser un pourboire. Et tu ne peux même pas prendre le menu avec toi. Non. Participer. C'est pourquoi on a la table. On a eu la table hier. Le pain. Est-ce que ce n'est pas une participation au corps de Christ? Ça veut dire que tu le manges. Participer, ça veut dire que tu le prends en toi. La coupe de bénédiction, est-ce que ce n'est pas une communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, c'est une participation, c'est manger. Chaque parole que nous avons lue dans Matthieu 5 à 7, mangez cette parole. Dites pas je sais. Savoir, c'est une chose. Tu connais les œufs? Emmanuel, tu connais les œufs? Bon, ça suffit. S'il s'agit de connaître les œufs, alors quand tu viens à déjeuner et que ta maman parle des œufs, encore une fois, et le jour suivant, elle parle de nouveau des œufs. Je ne pense pas que quiconque viendrait à table. Mais lorsque tu manges, tu ne vas pas être fatigué de manger des œufs parce que ça te fortifie, ça a un goût de ce qu'est vraiment un œuf. Nous voulons goûter Christ. Nous voulons goûter Christ. Nous voulons nous réjouir de Christ. Qu'est-il pour toi? J'apprécie la question. Qu'est-ce qui se passe? Quand il y a 10 ans, il y a 10 ans, on a parlé du sacerdoce, mais maintenant tu ne vas pas en reparler, mais on va te demander qu'est-ce qui t'a changé? La nourriture va te permettre de croître. Et c'est de ça qu'on a besoin. Pour moi, vivre, c'est Christ. C'est la manière d'accomplir la constitution céleste. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu peux la mémoriser. C'est bien. Je ne suis pas du tout contre la mémorisation. Mais même si tu la mémorises, les enfants disent volontiers, je sais, je sais, je sais, je sais. Mais à quoi ça sert si tu sais? On est comme les enfants, nous aussi. Les vieux. Je sais, je sais. J'ai lu ça, je sais. Mais il ne s'agit pas de ce qu'on sait, mais comment est-ce qu'on vit? Connaître, écouter. Mais si tu ne le fais pas, tu n'y arriveras pas. Ainsi, chacun qui entend cette parole, ça c'est la conclusion que le Seigneur dit, y arriveront? Non. Il dit, mais il faut l'accomplir. Il faut faire selon la parole. Et comment est-ce que tu vas y arriver? Par toi-même? Non, par Christ. Paul dit, je puis tout par moi-même. Et par, oui, par moi-même. Je suis si fort maintenant. J'étais chrétien depuis combien de temps? Maintenant, je peux tout faire par moi-même. Non. Je puis tout seulement par lui. Et le Seigneur a dit, sans moi, tu peux faire encore un tas de choses. Il dit, non, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu fais par toi-même, c'est rien. Tu ne gagnes rien. Mais si tu vis Christ, c'est merveilleux, tu vas y arriver. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et tu ne vas jamais connaître assez Christ, parce que ses richesses sont insondables. Insondables. Il y a des années, j'ai entendu une vieille personne qui a dit, j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir dans la Bible. Tout. J'ai tout vu ce qu'il y avait à voir dans la Bible. Dans mon cœur, je me suis dit, cet homme a atteint les limites de Dieu. Dieu est si petit que tu peux tout connaître à son sujet. Paul disait qu'il ne le connaissait qu'en partie. Mais cet homme a dit, je connais tout. Qui a raison? Tu es né ici au Canada. Est-ce que tu connais chaque centimètre ici au Canada? Même pas à Toronto. Et combien Dieu est-il plus grand que Toronto? Et cet univers se développe de plus en plus, il grandit de plus en plus. Non, aujourd'hui, connaissant qu'en partie, mais nous devons avoir un appétit. Seigneur, je veux connaître plus. C'est pourquoi, à nouveau, je nous ramène tous à Éphésiens 3. Je veux le connaître. Et dans Éphésiens, Paul parle de la hauteur, de la profondeur. Combien profond est la profondeur? Est-ce que tu as déjà été au centre de la Terre? Qu'en est-il de la plus haute partie de l'univers? Quelle est la hauteur de la hauteur? Et quelle est la profondeur de la profondeur? Et quelle est la largeur? Et quelle est la grandeur? Est-ce que tu as mesuré? Tu connais ces mesures? Non. Plus tu expérimentes et connais le Seigneur, laissez-moi vous témoigner, plus tu réalises que tu ne le connais pas. Ce ne sont que ceux qui ne le connaissent pas qui pensent le connaître. Et à la fin, ils ne croient même plus en lui. Et ils n'ont même plus besoin de lui. Mais plus on grandit et plus on l'expérimente, plus tu vas réaliser, je ne le connais pas. C'est pourquoi 1 Corinthiens 8 dit, si quelqu'un dit, je le connais, Paul dit, tu ne connais rien. Ainsi, ce n'est pas que nous ne le connaissons pas, mais plus tu le connais, plus tu réalises qu'il est insondable. Quelle est la hauteur à laquelle tu peux sauter? Oh, seulement. Qu'en est-il des ceux qui sautent en hauteur? Est-ce que c'est 8 mètres? Et qu'en est-il quand ils sautent si haut? Ben, ils retombent. Tu reviens au point où tu as commencé. Combien est-ce qu'on peut connaître Dieu? Combien est-ce qu'on peut expérimenter Christ? Il est insondable. Paul parle de la hauteur, de la profondeur, de la largeur et de la longueur. Toutes les dimensions de Christ. Qui peut sonder tout ça? C'est pourquoi chaque jour, c'est un jour, on a la chance d'expérimenter le Seigneur. Tu as besoin de Christ. Tu as besoin de plus de lui pour atteindre le but. Combien de fois avons-nous pensé, oh, je sais déjà ça, et puis souvent on a réalisé que c'était pas faux, que c'était pas juste, que c'était faux. Est-ce que tu peux tout apprendre au jardin d'enfants? Après le jardin d'enfants, il y a quoi? Il y a l'école primaire. Est-ce que ça suffit? Alors, l'école secondaire. Tu viens de finir. Ça suffit, non? Non. Tu dois aller au collège. Est-ce que ça suffit? Tu dois aller plus loin encore. Puis, tu dois encore continuer. Il y a tant à apprendre. Et s'il y a tellement à apprendre, concernant les choses de ce monde, est-ce que tu peux penses que tu peux connaître Dieu qui a créé cet univers? Et la chose la plus merveilleuse, c'est pas simplement qu'on connaît Dieu, mais je veux savoir pourquoi je suis là. Qu'est-ce qu'il fait? L'Église, mais qu'est-ce que l'Église pour toi? C'est là que tu vas tous les dimanches, est-ce que c'est ça l'Église? Les gens ont pensé que c'était ça. Il y a tant d'églises différentes, comme toutes les nations. C'est pourquoi ils appellent ça des dénominations pour chacun. Alors, laquelle tu choisis? Qu'est-ce que Dieu fait? Si tu ne connais pas Dieu, tu ne sauras pas ce qu'il fait. Quel est son plan? Et pourquoi Dieu t'a créé? Juste pour avoir un job, vivre ici et faire une croisière toutes les années, avoir des vacances, passer du bon temps. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est ça la vie humaine? Et qu'arrive-t-il lorsque ta vie est finie? Y as-tu déjà pensé? Tu as déjà pensé à ce qui se passe quand tu as fini, quand tu as fini l'université. Tu vas trouver un travail. Et puis, qu'en est-il une fois que tu as un travail, avoir une famille, et une fois que tu es marié, tu veux une famille. Et après, pas juste une maison, mais tu veux beaucoup de maisons. Et après cela, après avoir des maisons, qu'est-ce qui se passe? Tu es retraité. Ça veut dire que tu vas être retraité. Il fait un jeu de mots. Ça veut dire que tu es de nouveau fatigué. Ne pense pas qu'à la retraite, tu auras une bonne vie. Tu vas être encore plus fatigué. N'est-ce pas, John? Est-ce que tu es encore fatigué? Oui. Vous savez, c'est très fatigant de ne pas savoir quoi faire. Si tu ne sais pas quoi faire, ça va te rendre fou. Alors, comment est-ce que tu peux être à la retraite? Et les gens ne savaient pas. Après la mort, où ils vont? Est-ce que vous vous souvenez de cet homme riche? Il a été à la retraite. Et qu'est-il arrivé après qu'il soit à la retraite? Il est mort. Il souffrait tellement en Hadès, dans cette partie. Est-ce que vraiment ça, c'est la retraite? Il était tourmenté. Les gens n'y pensent pas parce qu'ils ne lisent pas la parole. La parole de Dieu te dit tout, de A à Z. C'est pourquoi le Seigneur dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin. Je suis l'auteur et je suis celui qui termine. Et dans la Bible. Même si tu vas même si tu vas à l'université, Emmanuel, et plutôt une connaissance dans la Bible. Nous devons tous apprendre. C'est la parole. La parole commence avec Genèse, le commencement. Genèse, ça veut dire le commencement. Et elle se termine par l'Apocalypse. Et ça nous montre ce qui va se passer à la fin. Si tu ne connais pas la Bible et que tu ne connais pas ton commencement et tu ne vas pas savoir ce qui va se passer quand tu seras mort, où tu vas terminer. Ne pensez pas que c'est un livre de religion. Non. Dieu veut que tu le connaisses pas seulement lui, mais il veut qu'on sache à quoi sert notre vie. Penses-tu que Dieu n'a pas un plan? Son plan est bien plus élevé que nos plans, c'est écrit dans Ésaïe 55. Tes pensées sont plus élevées que mes pensées et tes pensées. Et ses voix sont bien plus élevées. Quelle est la hauteur de ses voix? Quelle est la hauteur du ciel? J'en sais rien. Mais tu voles tout le temps. Est-ce que c'est assez haut? Non. C'est bien plus élevé. Beaucoup plus haut. L'homme est fou s'il ne vient pas à la parole. C'est pourquoi, à la fin, dans Matthieu spécialement, il dit un homme fou. Il a parlé d'un fou et d'un sage. Le sage, il a eu un master en ingénierie. Non. Il a bâti sa maison sur le roc. Tu penses que tu as un travail solide? Mais regarde, quand le COVID-19 vient, tout s'est effondré, regarde. Que c'est comme du sable mouvant. Tu penses que tu es sur un terrain solide? Tu penses que tu as un grand compte en banque? Mais regarde, il y a l'inflation et ça disparaît. Regarde ce monde. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans la Constitution, il a dit dans la Constitution, tu dois accumuler des trésors dans la banque. Non. Mais alors pourquoi est-ce que tu chéris tellement ton compte en banque? Quel est ton compte en banque au ciel? Pourquoi n'y as-tu jamais pensé? Y a quelqu'un qui y a pensé, du plus jeune au plus âgé. Et quelle est la valeur de ton compte? Où est ton trésor? C'est là où est ton cœur. C'est le Seigneur qui l'a dit. C'est très pratique. Chaque jour, de quoi tu te préoccupes? C'est là qu'il y a ton cœur. Et lorsque le Seigneur revient, combien est-ce qu'on a de trésors là-haut avec lui, qui sont déposés là-haut? Le Seigneur a tellement mis en nous. C'est un dépôt que Dieu m'a donné, Paul dit. Il veut gagner plus. Il veut en faire un profit spirituel céleste de ce dépôt. C'est pourquoi il veut gagner plus de Christ. Il veut pas gagner plus d'argent, mais plus de Christ. Le Seigneur nous a donné une parole simple. Ayez des trésors dans le ciel. Il n'y a pas d'inflation là. Je vous l'assure. Il n'y a pas d'inflation. Il va juste gagner de plus en plus. Et les intérêts du Seigneur, c'est au-delà de ton imagination. Les intérêts ici, je ne sais même pas combien ils sont. 0,1? Je ne sais pas. Mais dans Matthieu 25, il dit, mets-les dans la banque céleste. Même si tu n'as qu'un talent, investis-le dans la banque céleste. Et tu gagneras des intérêts célestes. Combien est-ce que le Seigneur va te donner d'intérêts? Combien tu penses? 100%? C'est merveilleux, pourquoi pas? 100%? C'est au-delà de notre imagination. Le Seigneur veut tout nous donner. Toute bénédiction spirituelle. J'ai pas entendu. Depuis aujourd'hui, vous devez tous Considérez votre compte céleste. D'accord? Ne vous préoccupez pas tellement de votre compte terrestre. Il n'y a pas de voleur là-haut. Ne croyez pas. Ne croyez pas les banques, ce sont tous des voleurs. Ils veulent que tu investisses afin qu'ils puissent utiliser ton argent pour leur propre gain. Puis tout s'effondre. Pourquoi? Parce que l'argent est allé dans la poche de quelqu'un. Que dit le Seigneur? Il n'y a pas de teigne et pas de voleur là-haut. Tu penses comme Michael, l'archange, va prendre quelque chose? Non. C'est sûr, là-haut. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Quel maître vas-tu servir? J'ai apprécié ce que Moses a partagé. N'essaye pas de servir le maître terrestre, le maître céleste. Il y a un dicton. Il y a un dicton en chinois qui dit, tu ne peux pas mettre tes deux pieds sur deux bateaux différents. Qu'en est-il si les deux bateaux se séparent? Tu tombes dans l'eau. Tu vas te noyer dans l'océan. C'est si difficile de juste équilibrer. Personne, nul ne peut servir deux maîtres. C'est écrit pour nous aider. Ne pensez pas que le Seigneur soit si égoïste. Non, c'est impossible. Essaye de faire deux travaux entre deux compagnies qui sont des compétiteurs. Est-ce que tu peux faire cela? Tu vas être mis à la porte. Tu vas être mis à la porte par les deux. Tu as raison. Tu ne peux pas plaire aux deux. Si tu fais ça, tu deviens un espion. Tu es même un espion pour les deux compagnies. La Constitution est très, très pratique. Et notre Seigneur Jésus, quand il était sur terre, il a vécu cette Constitution devant nos yeux. Il n'a pas fait de compromis. Aucun compromis. Le Seigneur n'a jamais fait de compromis. Que ta parole soit oui, non, non. Pas de compromis. C'est si simple. Ce n'est pas compliqué. Plus nous connaissons Christ, moins nous sommes compliqués. Si c'est juste, tu dis oui. Si c'est faux, tu dis non. Tu ne peux pas faire de compromis entre la justice et l'injustice. Soit tu aimes la justice comme le Seigneur et tu détestes l'injustice, soit tu aimes l'injustice et tu détestes la justice. Il n'y a rien entre deux. Parce que s'il y a quelque chose entre deux, eh ben c'est l'iniquité qui va prendre le dessus. Tu ne peux jamais faire de compromis avec le diable. Et même le monde sait cela. Tu les entends? Tu leur donnes 1 centimètre, ils te prennent tout. Tu leur donnes 1 centimètre, ils prennent 1 mètre. Tu leur donnes 1 mètre, ils prennent tout à la fin. Ne tombez pas dans cette trappe. par la convoitise. Les 10 commandements, le dernier, c'est ne convoite pas. Convoitise, c'est de l'idolâtrie. Nous pensons qu'une idole, c'est physique, quelque chose d'extérieur. Non. La convoitise, c'est de l'idolâtrie. Ainsi, le Seigneur nous a donné sa parole. Il faut la lire et réaliser que nous avons celui qui a accompli toutes les exigences justes de Dieu. Vous connaissez tous Romains 8. La loi écrite ne peut pas fonctionner à cause de notre chair. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Et il a condamné. Il l'a envoyé à la ressemblance de la chair. Et ensuite, il a accompli toutes les justes exigences de Dieu. Et maintenant, il habite en nous. On a besoin de lui pour l'accomplir. Qui d'autre peut t'aider à le faire? Celui qui te dit de faire quelque chose, il ne le fait pas lui-même. N'est-ce pas? Tu as dit à d'autres de faire quelque chose, mais toi-même, tu ne peux pas le faire. Tu recevras plus de punition de Dieu. C'est ce que hypocrite veut dire. C'est ce que le Seigneur dit. Vous êtes des hypocrites. Au chapitre 5, il y a les bénédictions. Et au chapitre 23, c'est malheur à vous, malheur à vous. Quel chemin choisissons-nous? Quel chemin choisissons-nous? Apprenez. Nous devons voir. Et la Bible nous dit tout. Et ce n'est pas juste la loi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la loi? Premièrement, parce que nous sommes déchus. Et deuxièmement, parce que le Seigneur veut un royaume. Un royaume de Dieu ne peut pas être inique. Il aime la justice et il hait, déteste l'injustice, l'iniquité. Est-ce que toi, tu hais l'iniquité? Qu'est-ce que ça veut dire, haïr? C'est j'aime pas, j'aime pas. Regarde même ce qui se passe dans ce pays, n'est-ce pas? C'est inique. Inique. On a prié à Fontaine-Vallée, à la dernière réunion de prière, avec 2 Thessaloniciens 2. L'iniquité s'accroît. Et le mystère de l'iniquité agit déjà. Qu'en est-il de la justice parmi le peuple de Dieu? J'ai apprécié ce que tu as dit au sujet de la justice. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de justice. Le sceptre de son trône, c'est un sceptre de justice. C'est pourquoi nous avons besoin de la loi. Israël n'est pas seulement une nation, c'est la nation de Dieu. C'est pourquoi le monde déteste Israël, pas juste parce qu'ils sont juifs. Ça n'a rien à voir avec être juif. Ça a tout à voir avec Dieu et le plan de Dieu, son dessein. J'ai toujours mentionné que Jérusalem, que cet État appartient vraiment à Dieu. Ils ne savent pas pourquoi ils se battent. Le Seigneur leur a montré, non, il nous a montré Sion. Et il l'a donné à son peuple. Ça, c'est vraiment la nation de Dieu. Toute la terre appartient au Seigneur. Il l'a faite. Mais particulièrement cette place à Jérusalem. C'est pourquoi c'est devenu si tendu là-bas. Tout le monde est fou. Il faut voir. Tout est incorporé dans le plan et le royaume de Dieu. Ne soyez pas naïfs. La raison, pour laquelle tout le monde déteste cet endroit et essaie de l'occuper parmi toutes les autres places sur cette terre. Pourquoi est-ce que le diable, avec cette terrible religion, a choisi l'endroit même que Dieu avait choisi? Pensez-y. Pourquoi est-ce que cet endroit est si important? Parce que c'est le royaume. Parce que le trône de Dieu va être là. Je mettrai mon trône là pour toujours. Le trône, c'est son royaume. Mais le peuple de Dieu ne se préoccupe pas. Personne ne se préoccupait de l'endroit que Dieu avait choisi quand ils sont entrés dans le bon pays. Et nous, chrétiens, à quoi nous occupons-nous? Tous se préoccupent d'aller au ciel. Mais le royaume, et le royaume commence aujourd'hui. C'est pourquoi dans Matthieu, l'évangile, c'est la venue du royaume. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et c'est pourquoi le livre de Matthieu, en tant qu'évangile du royaume, est au commencement. Il était le fils de David. La promesse de Dieu à David, c'était que de toi sortira un qui s'assiera sur le trône pour toujours. Immédiatement, lorsqu'il est introduit, c'était en tant que fils de David. Comment est-ce que les gens disaient, fils de David, aide-moi? Pourquoi est-ce qu'ils l'appellent fils de David? Parce qu'il est le roi. Et il n'y a qu'une seule fois, un jour, tout le monde l'a accueilli en tant que roi. Puis, ils l'ont renié en tant que roi. Ils ont dit, crucifie-le. Pilate a dit, voilà votre roi. Ils ont dit, nous n'avons pas d'autre roi que César. Bon, alors le Seigneur a envoyé Titus de Rome pour venir et être le roi? Non, pour tout détruire et pour éradiquer Israël. Presque 1900 ans. Mais Seigneur ne va jamais abandonner son plan. C'est pourquoi en 48, il l'a restauré. Mais ça, c'est le royaume terrestre. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur veut bâtir son royaume céleste. C'est pourquoi il y a deux Jérusalem dans Galate. Tu peux aller là-bas, si tu veux, la semaine prochaine. Ils invitent les gens à venir visiter Jérusalem. Non, la ville sainte. Mais elle n'est pas sainte. Mais il y a aussi une Jérusalem céleste. À laquelle appartenons-nous? La céleste. Mais vraiment? Vraiment? Est-ce que l'Église est céleste? Est-ce que c'est son royaume? Est-ce que le Seigneur est le roi? On a lu dans Éphésiens qu'il est la tête sur toute chose à l'Église. J'ai jamais vu un endroit où Christ est vraiment la tête. Le roi. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il d'ici à Toronto? Pas seulement qu'en est-il de nous, mais toi et moi, qui est la tête? Qui est la tête? Ce n'est pas une doctrine, c'est une réalité. Apprenez à l'écouter. Parce que le royaume commence maintenant. Quelqu'un a mentionné ce matin au sujet du royaume, le Seigneur dit que il ne vient pas de manière à frapper les regards. Alors je dis, ah ok, le royaume est invisible. C'est pas ce que ça veut dire. Mais premièrement, il est en nous. Et il est premièrement parmi eux. Parce que ce verset, tu peux aussi le traduire par parmi. Parce que le Seigneur, c'est le roi, c'est le royaume. Mais maintenant, il est en nous. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Mais ça ne veut pas dire que c'est invisible et qu'on ne peut pas le toucher, qu'on ne peut pas le voir. Non. Il doit être exprimé. Mais pas selon les concepts humains. Ainsi, si notre roi est si grand et que toute l'autorité lui est donnée, comment ça se fait que notre condition est si pauvre? Quelque chose est faux. Quelque chose n'est pas juste. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comme Paul, nous devons dire, pour moi, vivre, c'est Christ. Si nous vivons Christ, alors il y a l'autorité de Christ là. Pas seulement les enfants qui doivent apprendre à se comporter de la bonne manière, mais Paul dit aussi qu'on doit apprendre, les adultes, on doit apprendre à se conduire. Vous savez, lorsque les enfants ne se comportent pas bien, si c'est encore pas trop difficile, c'est pas encore trop, ouais, trop grave. Mais si nous, on ne sait pas se conduire, imaginez si nous, les adultes, on ne sait pas se conduire. Imaginez si les gouvernements ne se conduisent pas. Vous voyez vous-même, ils détruisent le pays en entier. Détruit le plan de Dieu. En fait, nous sommes, comme Paul dit, des enfants spirituels. On n'a pas grandi. On est des enfants emportés à tout vent, rebelles. On est tellement vite trompés par tant de choses. C'est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, Éphésiens 4. Ils sont emportés à droite à gauche. Et dans Hébreux, on a encore besoin de lait. On garde les principes élémentaires. Tu es encore à l'école enfantine. Tout ça. Alors comment est-ce qu'on peut bâtir le royaume de Dieu avec des enfants? Paul dit dans Galates, oui, les enfants sont des héritiers, mais s'ils restent des enfants, ils sont comme des esclaves. Ils ne savent pas quoi faire avec les richesses. Pour le royaume de Dieu, il ne s'agit pas de l'enseignement. C'est pourquoi on a accentué le fait de venir dans la Bible. Non, non, non. Notre vie spirituelle doit mûrir d'après ce que dit la Bible. C'est comme dans notre vie humaine, on doit mûrir. Si on ne mûrit pas. Oh, désolé, c'est tard. Sans maturité, on ne peut pas y arriver. Tu peux connaître toute la Bible. Ça ne suffit pas. Tu dois connaître le Christ vivant. Et il faut qu'il croisse. C'est pourquoi nous sommes les prémices. Alors, ce qu'on édifie ne va pas s'effondrer. Parce que le Seigneur va tout secouer. Hébreux dit, vous avez reçu un royaume qui va tomber. Non. Il dit, c'est un royaume inébranlable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le Seigneur revient, eh ben, peu importe, nous sommes sur un terrain solide. S'il y a un typhon, du vent, un tremblement de terre, on sera solide. Est-ce que vous avez peur des problèmes, des difficultés? Est-ce que vous pensez qu'il y aura de la pluie partout, sauf ici? Non. Dieu n'a pas peur. Il dit que cela vienne. Notre Seigneur a passé par tous les problèmes et il en est sorti victorieux. Et son royaume sera comme cela. C'est pourquoi le Seigneur va tout secouer, ébranler, pas seulement la terre. Et alors il reviendra. Ainsi que tout soit ébranlé. Ça dépend de notre condition aujourd'hui. Il est inébranlable parce qu'on est solidement enraciné au Christ. Christ va tout, le Seigneur va tout ébranler. Est-ce que vous avez peur des problèmes? Les problèmes, dans ce cas, c'est une bénédiction. Non, une bénédiction déguisée, pardon. Les problèmes sont une bénédiction déguisée. C'est pour ça que tu as des problèmes à la maison. Mais tu gagnes Christ. Si tu gagnes Christ, tu es solide. Rien ne peut t'ébranler. Sinon, un tout petit problème va causer une division. Mais l'Église, c'est le royaume inébranlable. Nous avons reçu un royaume inébranlable. Ça veut dire qu'il sera mis au défi. N'imagine pas que l'Église n'ait pas de problème. Les problèmes sont bons. Ça te rend solide. Ça te fait grandir. Ça te fait te tourner vers le Seigneur, gagner Christ, expérimenter Christ. Alors tu crois. Tu vas devenir un chrétien solide. Un membre de Christ solide. Un citoyen solide. Et alors l'ennemi sera même effrayé par toi. Ils essayeront. Ils ont essayé avec le Seigneur. Quelqu'un a lu hier dans Romains. Nous deviendrons plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Paul mentionne tant de choses. Avez-vous peur de tant de défis? Ça appartient à notre vie, même dans notre vie humaine. Aller à l'Uni, il y aura beaucoup de défis. Louez le Seigneur. On peut avoir quelques prières.